à la question de Avishai. Et c'est ce cours est dédié pour le Ilou Neshama de Avraham ben Esther Zichron Yavracha. Tu poses la question à Avishai, ben repose-la s'il te plaît.
Donc si quelqu'un doit faire tchouva, mais il n'a pas la vraie flamme au fond de lui, l'étincelle qui le pousse à faire, et est-ce qu'il doit vraiment la faire? Est-ce qu'elle va être sincère sur le bout? Est-ce que ça va tenir?
Il l'avait eu une fois. Il l'a eu une fois, et maintenant il l'a plus.
Ouais,
et pourquoi
qu'il a eu, ça a
marché. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, il a voulu aller plus loin, et après, au bout d'un moment, ça bloque, et il y a plus. Pour le reste, pour avoir ça encore plus, il y a plus.
Bon, il faut savoir la chose suivante. Le livre numéro 1 sur la tchouva s'appelle Sharé Tchouva, les portails du repentir de Rabbeinu Yonah. Et là-bas, au début du livre, il dit que Hachem va aider le Baal Tchouva de façon anormale, surnaturelle. Parce que pour sortir une personne des habitudes où elle est, il faut comprendre que la Touma, quand on fait des erreurs, quand on agit contrairement à la Torah, non seulement on a une habitude, et chaque habitude est dure à changer, mais en plus, quand on fait une avéra, on attire vers soi un souffle impur qui nous enveloppe et qui nous pousse, on appelle ça la rouach, un souffle, ça nous souffle en avant à refaire cette avéra. Et plus l'avéra elle est grave, plus le souffle il est puissant. Donc quelqu'un qui a péché longtemps, il a des pulsions de avéra extrêmement puissantes. Il est tout à fait anormal, même impossible naturellement qu'il s'en sorte. Regarde, c'est comme une désintox. Quelqu'un qui est drogué, ben, des fois il fait une désintox 2 ans. Il retombe. Parce que l'habitude, plus la touma, ça fait, parce que la drogue est aussi une grande touma, ça fait qu'il est addict, il est accoutumé. C'est très dur de s'en sortir. Une des meilleures thérapies pour les drogués, c'est la tchouva en Torah. Un grand rabbin m'a dit une fois, un grand spécialiste en tchouva, m'a dit que la seule chose qu'ils peuvent... Parce que le plaisir de la drogue, c'est très bon, paraît-il. Il n'y a rien au monde qui vaut ça. Rien. Si ce n'est la Torah. La Torah, c'est la seule chose qui peut vraiment remplir, et c'est normal. Parce que Hachem a créé la drogue. Il a créé les plaisirs qui vont avec la drogue. Et ça, il a créé dans le mal. C'est clair qu'Hachem peut donner dans le bien mieux. Donc il y a mieux, mais c'est vraiment le niveau d'Hachem, c'est qu'on se branche avec Hachem, c'est certain que c'est mieux. La nuance que la drogue, il faut payer un peu d'argent, ou beaucoup d'argent, et ça vient tout seul, tu n'as pas d'effort à faire au niveau de ta personnalité, alors qu'avec Hachem, il faut se construire pour être branché avec Hachem. Donc, quand quelqu'un agit mal, il s'enveloppe, une enveloppe de tum'a, d'impureté, qui lui bloque complètement le retour possible à Hachem. Mais Hachem est Rahman, miséricordieux, et certains mérites de la personne, ou souffrances de la personne, ou mérites des ancêtres de la personne, ou deux de ces trois choses que j'ai dit, ou les trois à la fois, font que pour un certain mérite, Hachem décide de oui, lui tendre la main. Et là, c'est une opération extraordinaire de secours, d'accord ? On le sort comme ça, on le sort et tac, on lui met tout le coup un vent, un souffle de pureté extraordinaire, divin. Et cette phase est connue pour ceux qui ont eu ça. Tu as 2 à 3 mois, même 4 mois, où tu t'en sens un petit nuage. Tu es porté par Hachem. Il n'y a rien de meilleur au monde. Et tu parcours une distance au niveau de ton changement extraordinaire. C'est des années-lumière qui passent en quelques semaines. C'est très subi. Ça, on a une fois. Pourquoi ça ne continue pas? Parce que tu as eu un mérite. Hachem t'a sorti. Attends, si Hachem continue maintenant artificiellement à te tenir, tu es un nul. Le but, c'est pas que tu sois là. Enfin, le but est oui que tu sois là, mais le but n'est pas que tu sois là lorsque Hachem te tient. Parce qu'en fait, tu n'es pas là. Le problème est que si il te lâche, tu tombes. Le but, c'est que tu sois là par toi-même. On veut être. On ne veut pas être par procuration. Mais Hachem veut te sortir d'où tu étais. Et arriver à être d'où tu étais, c'est impossible tout seul. Alors Dieu, il t'aide. Tac, le mérite est fait. t'es là, t'as goûté, t'as vu, c'est bon, ok, dim, il te lâche. Il te lâche, c'est pas que tu retombes où t'étais, mais il y a une dépression, il y a une baisse, et maintenant on t'a montré où c'était. Tu sais que ça existe, t'as goûté à ce bon goût, vas-y. Il est possible, tout à fait possible, de réintégrer ce degré, je dirais même, le dépasser même en beaucoup plus haut, par soi-même. Mais là, il faut gravir par soi-même. Donc ta question, elle est, comment revivre ce que j'ai vécu au niveau sentimental, au niveau de l'argash, au niveau de la sensation. Tout le monde, on sait que c'est vrai. Que tu sois high ou down, tu sais que c'est vrai. Mais au niveau de la sensation, quand tu sens la proximité de Hachem, tu pries, tu sens que ça passe, t'es exaucé, tu vois que ça marche, tu as la pêche, c'est beau, c'est un petit nuage, d'accord, le souffle de pureté. Est-ce que c'est réintégrable par soi-même, après qu'on est tombé? Réponse, absolument oui. Mais, Hachem veut qu'on fasse par nous-mêmes. Et là, c'est le lent chemin de la tchouva, qui est un chemin de fourmi, tous les jours un peu, être ikvi, comme on dit ça en français. Non.
Régulier.
Régulier. Tous les jours un peu. Et on monte. On monte. Sache que l'étude de Torah a une faculté de pureté inimaginable. Je pèse mes mots. Inimaginable. On ne peut pas se rendre compte à quel point ça nous purifie. C'est terrifiant. C'est extraordinaire. Donc quelqu'un qui étudie la Torah, et surtout au niveau du Baal Tshuva, parce qu'il y a un problème après celui qui commence à étudier bien, il y a le kavod qui rentre. Il y a les honneurs, il y a peut-être après un poste, d'accord? Ça déjà, ça pollue ta Torah. Mais quand tu te casses la tête pour comprendre la Torah, parce que c'est la Torah d'Hachem, parce qu'Hachem a demandé qu'on étudie la Torah, c'est complètement Hachem Shamaim, donc c'est une Torah qui a une valeur incommensurable, inimaginable, comme je l'ai dit. Donc, quelqu'un qui étudie tous les jours, fais attention de ne pas faire trop de haverot. Si possible, le maximum. Il prie comme il faut. D'accord ? Il monte. Et, bien sûr, j'allais oublier l'essentiel du moussard. Sans moussard, c'est mort. Mort. Je ne dirais pas une croix, mais presque. D'accord ? Mort. Le moussard, c'est essentiel. Parce que c'est ça qui nous met en face. C'est ça qui nous dit qu'est-ce qui ne va pas, où je dois changer. C'est ça le ce qui mon phare, d'accord, mon tableau de bord qui me montre où aller. Quelqu'un, il continue comme ça et arrivera tout à coup à ressentir Hachem. Et c'est très rapide. Très rapide. Quand je dis c'est très rapide, l'argasha, elle revient, elle peut revenir, ça peut être lent, ça prend du temps. C'est rapide, c'est très soudain, c'est ce que je veux dire. Ça peut arriver d'un coup. Tu n'avais pas l'appel, tout, tac, un matin, tu as pris avec Kavana, tu as l'amour de la Torah et ça reste. Le Rav Shimshon Pinkus a raconté que avant qu'on dise ça, je fais une petite introduction. Les jours de fête sont appelés Yom Tov, jour bon. On va appeler ça un jour bon. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Alors appelle-le jour pur. Alors en fait, la première fois on voit le mot Tov, bon, dans la Torah, c'est dit à propos de la lumière. En fait, c'est un jour de lumière. Les jours de Yom Tov, il y a une très grande lumière spirituelle d'Hachem qui emplit nos âmes. Vu que la Torah n'aime pas parler crûment des réalités spirituelles, elle habite toujours les choses. Alors, au lieu de dire un jour de lumière, parce que les gosses auraient dit, papa, il n'y a pas plus de lumière qu'hier. Parce qu'un gosse ne comprend pas de quoi on parle quand on parle de lumière spirituelle. La Torah parle toujours un langage très matériel. Donc on a habillé ça, on a appelé un Yom Tov, un jour bon. Enfin, c'est un jour de lumière. Et un des jours où on reçoit beaucoup de lumière, c'est Pessah. Cette lumière commence à se dévoiler déjà la veille de Pessah. Comme dit Katramet. Comment débute le traité Psachim, le traité du Talmud relatif à la fête de Pessah. Or là-bas, Asar, Bodkim et Tachamet, c'est Oraner. Or la lumière du 14e jour de Nissan, on vérifie le Hametz à la lumière de la bougie. La Gemara, sur 3 pages, pose la question, c'est quoi ce mot « or » La lumière du 14e jour. Elle dit, on parle du soir. Pourquoi tu appelles ça or? Le soir, c'est la nuit. Bon, elle va donner à la fin une conclusion. La Kabbalah dit pourquoi on appelle ça or? Parce qu'à ce moment-là, se dévoile une lumière spirituelle énorme. La lumière de Pessah commence déjà à la dédicace du Hametz. Le Rav Shimshon Pinkus raconte, dans son livre sur Pessah, qu'il a fait la dédicace du Hametz comme il se faut. Il y en a qui font, ils passent 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, d'accord? Kol Hamira a dédicace du Hametz, terminé. Une bonne dédicace du Hametz prend minimum 4 heures. Il faut tout vérifier. Tous les endroits où le Hametz a pu être posé. Ma femme devient folle, d'accord? On a toutes les assiettes, toute la cuisine qui est tout bien rangée, tout, on met dehors. On commence assiette par assiette, tac, 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 casserole par casserole, fourchette par fourchette, tout vérifie.
La bougie.
On a nettoyé. On n'a pas vérifié, on a nettoyé. Et les pauvres qui me disent, bien qu'on a nettoyé, il faut vérifier. Non, quand on nettoie, on ne vérifie pas. C'est vrai qu'on peut aussi vérifier avant le soir de Pessah. Et c'est ce qu'on fait chez nous à la maison, sinon ça prend, on est à 7 personnes, on n'y arrivera jamais, d'accord? Alors on commence déjà le soir, quelques soirs avant, c'est un mois passé, un mois par là, mais on laisse quand même le gros pour le même soir de Pessah. Il faut tout vérifier. Pourquoi je suis en train de dire cela? Hein? Voilà, Pinkus, il a fait sa vérification, il a fait bien, quelques bonnes heures. Bon, vers minuit, une heure du matin, on a exténué avec le Pessah, c'est intéressant parce que dans Shulchan Aruch, le Siman, le chapitre du Seder, c'est le chapitre Taf Ein Bet, Tab. Tab, ça vient de l'arabe Tarban, fatigué. D'accord? Parce que le joueur de Pessah, on est tous ratatinés. Donc, ratatinés, il se prépare à aller au litre où il se rappelle qu'il y a le grenier. Le grenier. Bon, il prend le monte sur l'échelle, il rentre au grenier, il voit noir dans les yeux. D'accord? Le grenier, plein de poussière. Rien. Des valises, des trucs, plein de choses. On a rien vérifié. C'est sale. Ben, c'est pas possible. Je vais dormir. On peut passer le grenier comme ça. Bon, il n'y a pas de Hametz. Peut-être qu'il y en a un. Il y a un Hametz ici, un truc des bons courants. Il prend ses mains, il retrouve ses trucs, il commence tout laver à grande eau. Jusqu'à 6h du matin. Il fait l'abdika. 6h du matin, c'est le net, il va prier à la prière. Après, la veille de Pessah, est-ce qu'on peut dormir? On ne peut pas dormir. Toute la veille de Pessah, il est en train de tout préparer pour le soir. Et il sent sur lui une lumière extraordinaire. Ah oui, le soir de Pessah, il sent une lumière extraordinaire. Si c'est extraordinaire, fantastique, je sens un truc, c'est beau. Bon, peut-être c'est la fête de le Seder. Le lendemain matin, il se réveille, et non, il sent cette lumière-là. Bon, c'est souvent la fête, c'est Yom Tov. Bon, c'est Yom Tov, premier jour de Chol HaMoed, il sent encore la lumière. Bon, peut-être c'est toute la fête de Pessah, et 7 jours passent, il sent la lumière, elle n'a plus quitté. On peut avoir, par une mitzvah qu'on fait, un truc qu'on fait, mais c'est haute nefesh, mais c'est haute nefesh, abondant de soi, on peut amener sur soi une lumière qui reste toute la vie après. Il ne faut pas faire de gaffe non plus. Tu fais un gros truc tordu, ça repart. Ça se peut aussi que c'est une âme de tzaddik qui est rentrée en lui. C'est marqué qu'on, des fois, quand on fait une mitzvah avec l'abandon de soi, mais c'est haute nefesh, on reçoit une âme de tzaddik qui vient en nous et qui nous aide. T'es aidé par Baba Saleh, t'as Rabbi Meir, t'as Rashbi, qui est Rashbi Shomba Yocha avec toi, t'es quelqu'un d'autre. Ça a pu quitter toute sa vie. C'est un exemple illustré que ça peut être très soudain. Tout à coup, ça revient. On ne doit pas s'attendre à ça parce qu'on ne sait pas quand ça vient. Nous, on doit être régulier, à pas de fourmi, on fait notre salaire. Tac, tac, tac. Au bout d'un moment, c'est garanti. On y arrive. Ok ? Ça reviendra. Et c'est vrai qu'il n'y aura plus l'aide qu'on a eue au début. Pourquoi ? Parce que ça, une fois. On ne rejoue pas la comédie, en fait. Comme Bnei Israël au Mont Sinaï, ils ont vu Hachem. Hachem revient chaque fois, chaque 10 ans. Tu refais le même coup, qu'on soit certain que c'est vraiment toi. Ah bah, comme le bac, d'accord? Une fois le bac, chaque année, tu as eu le bac, tu peux le refaire là maintenant? Non, une fois, j'ai le papier, c'est bon, voilà. On pourra faire ça chaque année. Donc Hachem t'a montré une fois qu'il existait, que c'était bon, que c'était doux. Maintenant tu sais que c'est vrai, vas-y.
Dans la manière dont vous avez dit qu'un Baal Tshuva, il revient par le saut d'une mitzvah, le saut à droite,
la souffrance, oui.
Ou autre chose, il n'y a pas besoin de faire du kiouv.
J'ai expliqué très souvent que le kiouv n'est pas le mérite qui fait faire Tshuva. quand tu parles à quelqu'un pour lui faire sa tchouva, ou tu le convaincs, ou tu le convaincs pas. Tu parles à deux personnes, le même discours. Un, il est convaincu, l'autre pas. Donc c'est pas ton discours qui a fait quelque chose. Ton discours... parce qu'il y a, ça s'appelle Ishtadlut. C'est le canal qu'Hachem utilise pour... Hachem ne fait pas de miracle ostensible. Quelqu'un est malade, c'est Hachem qui le guérit. Pourquoi on prend des médicaments? Pourquoi on voit le médecin? Hachem a voulu qu'on fasse une Ishtadlut, une comédie matérielle, naturelle. Et par le biais de cette comédie, Hachem va amener, lui, la bracha. Donc il faut avoir le médecin, il faut prendre un médicament. Tu dis, Hachem, je sais bien que ce n'est pas le médicament qui me guérit, c'est toi. Ben, tu m'as ordonné maintenant de me soigner d'après les voies naturelles. Je le fais, mais je sais bien que c'est qu'une comédie que je fais. Je vais au boulot. Hachem, c'est toi qui envoie la parnassa. Ce n'est pas le travail que je fais qui va envoyer. C'est de toi dépend tout. Mais c'est moi qu'il faut que je fasse quelque chose. Je sais que je fais une comédie. L'armée. C'est pas l'armée qui va gagner la guerre. C'est Hachem qui gagne la guerre. Mais on va pas les. Hachem demande qu'on joue une comédie, qu'on est normé pour, voilà. Il faut bien jouer la comédie. Bien jouer, mais c'est vrai que c'est qu'une comédie. Ça s'appelle Ishtadlut. Idem pour la tchouva. Tu parles, tu veux faire tchouva à des gens, il faut jouer, il faut jouer une comédie. Il faut être un bon comédien. Oui, Laurent.
En revanche, le candidat à la tchouva, lui, il a intérêt à être sincère parce que. Sinon, ça ne peut pas marcher, de toute façon.
Vous ne pouvez pas avoir de tchouva qui n'est pas sincère. C'est la seule chose au monde qui est vraiment impossible de faire de façon non sincère. Oui.
J'ai vu ce matin, et là, vous avez dit, Ben, quand il parle de la lumière, Dieu, il dit la première fois, c'est bon, Dieu. J'ai vu ce matin, trois jours plus tard dans l'histoire, quand il crée la terre, tout ça, il dit, c'est bon. À chaque fois, il vient, il dit, Dieu vit que c'était bon.
Oui, la première fois, il dit que c'est bon.
Ouais, non, il dit pour la lumière, après il dit encore deux fois qu'il dit que c'était bon. Un arbre faisant lui qui a sa semence et lui selon son espèce, il dit encore que c'était bon, et deux plus loin, il fit la terre, je sais pas quoi, la terre, quand il sépare quoi. Bon, à chaque fois, on dirait il teste, il teste pas. Comment, pourquoi il vient dire c'est bon, je comprends pas. Là, je comprends parce qu'il y a pas de mots en trop, là ça fait trois phrases, et à chaque fois, il y a Elohim et Elohim, je suis top.
Pourquoi c'est marqué que c'est bon?
Pourquoi il vient nous dire que c'est bon? Pourquoi on sait que c'est bon?
Ouais. Je me souviens bien de Ramban pour la question et réponse. Tu veux qu'on regarde maintenant en rapide, rapidos? Il y a Nicole Golot, Bereshit. Je vais voir rapidement. Et sinon, ben, on fera l'objet d'un cours ultérieur. Voilà. On va maintenant voir Rashi. Rashi aussi, il a compris la question. Donc Rashi, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? Il est tov. On sait bien que c'est bon. Il dit. C'est bon, et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser l'accès à cette lumière au Rechaim. Donc il a caché cette lumière pour les Sadekim des générations futures. C'est une explication de Rashi, d'après le Midrash. D'après le Midrash, d'après le Pshat, Rashi nous dit, il dit qu'elle était bonne cette lumière, et il n'était pas séant que l'obscurité et la lumière agissent ensemble, donc il a séparé chacun avec son territoire. Et le Ramban, les deux sont faux. Boum. Car si c'était comme ça, c'est vrai que si Hachem, il est revenu sur sa décision, il a créé la lumière. Après, il dit non, elle est trop bonne, je ne vais pas laisser comme ça d'accès pour Rechaim, je la cache. Ou d'après le deuxième chat, c'est pas bien, j'ai créé la lumière, après, non, maintenant il y a l'obscurité et la bonne lumière, c'est pas bien que les deux soient ensemble. C'est comme si Hachem, il regrette ce qu'il a fait. C'est pas possible. Il répond des choses profondes. J'en parle dans un shiur qui s'appelle Les secrets de Bereshit. Alors, je vais te dire ce qu'il leur emmène ici. C'est quoi le mot Amira? C'est quoi parler? Hachem, il a une bouche et une langue et blablabla. Amira signifie Hotsa la Poal, c'est-à-dire réalisation. Quand tu veux une chose, tu veux une chose. On va dire que tu as soif. Tu as soif. Alors, tu as une motivation, c'est la première chose qui fait que tu veux demander de l'eau. Tu vas. D'abord, tu as un besoin, donc une volonté. La chose la plus profonde qu'il y a chez l'homme, c'est la volonté. Je l'explique même en un peu plus long. Rabbi Yudah Hasfid, c'est un grand rabbin du Moyen-Âge. Il dit, si tu veux honorer quelqu'un, comment tu l'honores? Tu veux respecter quelqu'un. Tu veux le respecter, tu veux l'honorer. Tu veux l'honorer parce qu'il est intelligent. Tu peux l'honorer parce qu'il est beau. Tu peux l'honorer parce qu'il est riche. Tu peux l'honorer parce qu'il est sympa. Tu peux l'honorer parce que, qu'est-ce que j'en sais moi encore? Il a un Tamid Chacham. Et tout ça, c'est pas l'honorer. Parce que c'est pas lui que t'honores. Il est intelligent, c'est pas lui que t'honores, c'est son intelligence. S'il devient bête, ben lui est toujours là. Et pourtant, tu ne vas plus l'honorer. Il est beau, et t'es défiguré le pauvre. Tu vas plus l'honorer, pourtant il est toujours là. Donc, c'est pas lui que t'honorer, c'était sa beauté. Idem l'argent, il est devenu pauvre. Idem son Tamid Chacham, il a tout oublié, il est devenu bête, etc. Donc c'est qui lui? C'est ni sa sympathie, ni son intelligence, ni son argent, ni sa beauté. C'est qui lui? Pardon?
C'est lui sans lequel on n'est pas là.
Celui sans lequel?
Sans qui nous on ne peut pas être
là. Lui que si on enlève, il n'est plus, lui n'est plus là. Toutes ces choses que j'ai enlevées, sans lui, il reste. L'intelligence, la beauté, l'argent, j'ai enlevé, lui, il reste. C'est quoi lui?
Son pouvoir de se réaliser.
Et si maintenant c'est un légume? Oui, on va dire pas un légume. Il n'est pas un légume, on va dire qu'il est. Il est le pauvre, il est complètement paralysé. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus se réaliser. Mais il est encore conscient. Légume, vraiment, il n'est plus là. Il n'y a que le corps qui est là. Mais il est encore là. C'est qui? Lui. Hachem, c'est pas lui. Hachem, c'est Hachem. Alors il dit, Retsono Shaladam Ukevodo. Il dit, la volonté de quelqu'un, c'est ça, son honneur. Tu veux l'honorer lui, honore sa volonté. Respecte sa volonté. Moi, c'est quoi moi? Mon moi le plus profond, c'est même pas ma pensée. C'est encore avant ma pensée. C'est ce qui motive ma pensée. Mon vrai moi, c'est ma volonté. Enfin, c'est faux. Mon vrai moi, que je ne sais pas ce que c'est un bidule machin, se manifeste de façon la première par la volonté. Moi égale expression d'une volonté. Oui.
On juge quelqu'un par rapport à sa volonté ou par rapport à ses actes? On juge, entre guillemets, sa force.
Ça marche ensemble, parce que s'il a une grande volonté de faire des actes, hein?
S'il a une grande volonté mais qu'il
fait rien, c'est qu'il n'a pas de volonté. C'est qu'il n'a pas de volonté. L'acte, il est expression de la volonté. Et j'y arrive. Donc quand tu veux maintenant t'exprimer, tu as soif. Première chose, tu as une volonté de boire. C'est la chose la première qu'il y a, c'est même pas encore une pensée. Un gosse, par exemple, il a un bébé, d'accord, qui vient de naître. Je ne sais même pas si encore il a ta pensée. Il n'y a pas une pensée, j'ai soif. Mais il a une volonté de boire, il pleure. C'est le cri, d'accord. C'est même pas, c'est pas dans quelle mesure ça mesure. Il n'y a pas de pensée qui fait que c'est plus instinctif. Il y a déjà une expression de sa volonté. C'est la chose la première qu'il y a en lui. Un homme adulte, cette volonté, elle rentre dans le cerveau. Elle se traduit en pensée. Pensée, maintenant, j'ai besoin de faire un acte maintenant qui va m'apporter de l'eau. Le cerveau, maintenant, tac, il va ordonner au corps, qui est la grue, d'accord. C'est une grue. Ou je me sers un verre d'eau, je dis amenez-moi un verre d'eau. J'ai une grue langue, j'ai une grue main, une grue pied, d'accord. Donc pour arriver à l'acte, il y aura toujours trois étapes. Volonté, pensée, et après l'acte. Hachem en créant le monde, il n'a pas créé comme ça. C'est-à-dire sans volonté et pensée. Avant que le monde soit créé, ça c'est le mot Bereshit, par une chose première. Bara Elohim, Hachem a créé le monde. Quelle chose première? Une volonté, il y avait un but et une pensée. C'est le pourquoi et le comment. Prenons l'exemple de ce verre jetable. Hop, le voici. Ce verre jetable, un jour, a été créé. La création de ce verre jetable était en fait sa troisième création. Avant de créer ce verre, il y a eu deux autres créations qui ont été faites. Il y a eu une volonté, une motivation. On a besoin d'un ustensile pour boire, bon marché. Quand on utilise une seule fois et qu'on jette, bon marché, pratique, etc. Il y avait un besoin. Après, une pensée. Ok, comment on fait ça? On va prendre un truc jetable, en plastique, transparent, pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans, plat, parce que s'il est rond, ben, il va tomber, avec une rugosité ici, des anfractuosités pour qu'il ne glisse pas, pour qu'il tienne. Avec ici, le rebord est retourné pour qu'on peut être plusieurs ensemble, ça se tient l'un dans l'autre. C'est extra... Il y a beaucoup de pensées là-dedans. Beaucoup de pensées. Et après, on le crée. Il n'y a aucun objet au monde créé auquel n'ont pas précédé ces deux créations. La volonté et la pensée. On aurait pu croire que peut-être pour le monde, c'est autrement. Le monde, il est là, comme ça. La Torah, au début, dit non. Bereshit, avec une chose première. Jamais créé ce monde. Il y a une volonté et une pensée. Bête. Deux Reshit. Deux choses. Une volonté, il y a un but et un comment. Je rappelle les choses un peu autrement. Quelqu'un vient et demande qu'est-ce que c'est? Tu prends un aborigène d'Australie, tu l'amènes ici à Yeshiva, il ne sait pas ce que c'est. Il dit Mazé, what's that? Shuhada, qu'est-ce que c'est? Il attend qu'il lui donne deux réponses. La volonté et la pensée. C'est-à-dire la volonté, c'est le pourquoi. Volonté, j'ai un pourquoi, j'ai une motivation. À quoi ça sert? Ça sert à boire. Deuxième question qui vient, comment? C'est la pensée. J'ai un besoin, il me faut un truc qui sert à boire. Après, il y a eu un comment. Volonté, c'est le pourquoi. Pensée, c'est le comment. Quand quelqu'un pose une question, qu'est-ce que c'est? Il attend deux réponses. Le pourquoi et le comment. À quoi ça sert? Comment on l'utilise? Hachem qui va nous dire maintenant, dans sa Torah, quel est le monde? Il va dire, sache. Ce monde, il a un pourquoi et un comment. Maintenant, un beau jour, ce pourquoi, ce comment vont se réaliser en monde. Le passage de la pensée à la réalisation s'appelle Amira. Parole. On a par exemple Amiré à Etim. Amira signifie le sommet des arbres. Parce que lorsqu'il y a une réalisation, c'est une étape supérieure. Quand tu réalises, ben, tu es arrivé au but. Aboutissement. Donc c'est un sommet. Le sommet des arbres. Chaque fois qu'on dira une Amira, ça veut dire, et par exemple c'est marqué Hachem et Michal Am. Dieu t'a soulevé en tant que peuple. Donc l'Amira, c'est monter de degré. Donc on monte du niveau pensé au niveau réel. Ça c'est Vayomer Elohim. Elohim, il a dit, c'est quoi il a dit? Il a réalisé sa pensée. Il a passé du virtuel au réel. C'est quoi maintenant? Re'iya, Vayar Elohim, il a vu. Il dit, c'est Kiyumo Sheldavar. C'est rendre la chose, une fois que j'ai créé, il faut qu'elle dure. D'accord? Donc donner une existence durable. Donner de l'existence. Tu crées, après il faut que ça tienne. Une existence durable. Il amène des preuves à cela. Comme on dit en hébreu, Ro'eyanit et Tevarecha, Jean, je vois tes paroles. Ça veut dire, je leur donne du crédit. Donc Dieu a créé, après il a dit, ok, je veux que ça continue. Donc tous les jours, Hachem va dire, Vayar Elohim Kitov, et ça l'est tous les jours, mon cher ami, à part le lundi, où il a partagé, et quand il y a un partage, Hachem n'aime pas. Donc il y a l'union. Mais pour rembourser, il a dit deux fois Kitov le mardi. Donc tous les jours il a dit, et le vendredi quand tout a été terminé, il a dit Vine Tov Meod. Voici, c'est pas son nom, Tov, c'est Tov Meod, c'est très bien. Donc que signifie qu'il y a Vayomer Elohim Vayar Hashem Taor Kitov? Hashem a vu que la lumière était bonne, et lui il a voulu que cette lumière reste. Voilà, donc il a voulu que ça reste. Vayomer Elohim Yor, Hachem a voulu qu'il y ait la lumière, après il a voulu qu'elle reste. C'est ça, la Amira, la parole, ça c'est la Re'iya. T'as la réponse. C'est beau, hein? C'est le Ramban. Comment t'es arrivé à ça? Ah, Kitov, je parlais de la lumière et. Ok, très bien.
D'après ce qu'on vient de dire là, chaque geste, chaque parole qui est faite dans ce monde-là, il y a une pensée.
Bien sûr.
Il y a un comment peut-être il n'y a pas de question. Hein, comment vous faites avec les réflexes, les tics et les tocs? Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de comment, il n'y a pas de pourquoi.
Hein. C'est certain, quelle motivation au tic et au toc. Pourquoi un type il a un toc? Non, il a une motivation intérieure subconsciente qui fait que son père l'a beaucoup giflé quand il était petit. D'accord. Lui, dorénavant, maintenant, il fait comme ça, d'accord. Mais il y a une motivation.
Alors aujourd'hui, il ne veut pas. Sinon.
Il ne veut pas, mais il y a une motivation. Lui, dans son conscient, il ne veut pas, mais le subconscient est bien plus fort. Le subconscient, il hurle. J'ai mal. Hein? Le subconscient, il veut aussi des choses. Toi,
on appelle cette la volonté de
bien sûr, toi, ton toi profond maintenant, ton toi profond, il veut des choses. Certaines parties de ces choses-là restent subconscientes, d'autres émergent dans la conscience. T'as plusieurs parties en toi, t'as une partie inconsciente qui veut des choses aussi.
C'est pas moi, mon subconscient.
C'est qui alors? C'est lui? C'est un autre?
Si je suis pas maître de mon subconscient.
T'es maître de toi? De quoi t'es maître? Quand tu dors, t'es maître de ce que tu rêves?
Non, mais je suis maître au moins de ma conscience.
Quand tu rêves, non. Qui rêve? C'est toi ou le voisin? Qui rêve quand tu rêves?
C'est une question.
C'est toi. C'est une partie de toi que tu ne maîtrises pas. Il y en a. Il y a une partie qu'on ne maîtrise pas. Bien sûr qu'on ne maîtrise pas tout. Tu maîtrises quand tu vas aux toilettes? Hein?
Non.
Ça vient? Tu maîtrises ton cœur? Arrête maintenant de... Fasse un moment que les reins, maintenant, arrête la fonction des reins un moment. Ne digère pas pendant un moment. Fais encore mieux. N'entends pas ce que je veux dire maintenant. N'écoute pas. T'entends? T'es pas maître. Il y a une partie des choses dont tu es maître, une partie des choses dont tu n'es pas maître. Il y a une partie en toi dont tu n'es pas maître, c'est clair. Celle qui gère, par exemple, le corps. Au Hachem, que Hachem s'occupe de ça comme il faut. Le corps, les reins, tout fonctionne très bien. T'as jamais rien voulu. Ça fonctionne tout seul. Donc, aussi une partie maintenant sentimentale qui réagit face à tout ce qu'il y a eu durant sa vie. Il y a des traumatismes, des choses qui font que. Ok? Donc, c'était pour retomber sur notre sujet que la lumière de la tchouva est bonne. C'était ça? Compte arrivé sur. À la lumière de Rav Pinkus. Voilà. Hachem a pris cette lumière, elle a vu qu'elle était bonne, elle a laissé pour les tzadikim déjà de son venir. Hachem, que nous fassions partie des tzadikim. Bahou Hadonai.